Radio Ndekeluga, le magazine parlementaire.
Bonjour et bon week-end à tous. Nous voici présents pour la réalisation du 32e numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekeluga pour cette année 2019. Pour ce week-end, le magazine est consacré aux lois régissant les investissements en République centrafricaine. En région, nous allons nous rendre à Gambo dans le Bomou pour rencontrer le député Michel Pingo et Denis Modemade, député de la première circonscription du 6e arrondissement de Bangui. La convention de Borne sur les espèces migratrices, ratifiée par la représentation nationale, sera de retour dans cette émission avec le député Sonny Kouloubayon. Nous sommes deux au micro.
Joël Bagali
et Igor Jeske Sinapai. À la partie technique, nous avons Cyrus Armand Zemangui Kété. C'est parti pour ce magazine parlementaire de Radio Ndekeluga. Une fois de plus, Jean-Eudes, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Igor Jeske Sinapai, bonjour à tous nos auditeurs.
Comme je l'annonçais au début de cette émission, que dit la loi à propos de l'investissement en République centrafricaine? Car aujourd'hui, les centrafricains s'interrogent sur les conditions d'investissement dans le pays, notamment l'attribution des permis d'exploitation minière aux entreprises étrangères.
Oui Igor, cette question fait à la une de l'actualité ce dernier temps suite à l'exploitation minière par des sociétés chinoises à Bozoum et dans l'Ampindé. Retrouvons Augustin Argou, membre de la commission finance à l'Assemblée nationale.
Je vous remercie Sinapai. C'est une question pertinente que vous me posez pour que je puisse éclairer les auditeurs de la radio Ndekeluga. Deuxièmement, il faut séparer deux choses. Il y a ce qu'on appelle la loi, notre constitution, à son article 60. Le gouvernement a l'obligation de recueillir préalablement l'autorisation de l'Assemblée nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Voilà. Il est tenu de publier les 10 contrats dans les 8 jours francs suivant sa signature. Ça veut dire que, premièrement, ce n'est pas l'État, quelqu'un qui vient investir dans le domaine minier, dans le domaine forestier, ok? Bref, dans le domaine d'exploitation, de mines, tout ce que vous connaissez des ressources naturelles dans notre pays, d'abord, il doit être présenté au niveau du gouvernement, le ministère de tutelle, au ministère de mines, au ministère des eaux et forêts, ainsi de suite. Une fois que son dossier est validé au niveau du gouvernement, le gouvernement a l'obligation d'envoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour demander l'avis de l'Assemblée nationale avant la signature définitive du document par le président de la République. Ça, c'est premièrement. Maintenant, il y a d'autres qu'il faut, des investisseurs privés, ceux qui viennent dans le cadre du commerce, ceux qui viennent pour créer des entreprises. Là, ils ne sont pas obligés de passer par l'Assemblée nationale. Il y a, nous avons chez nous, nous avons voté au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la charte d'investissement. Quelqu'un qui vient pour investir dans le pays, il suffit de prendre la charte d'investissement et de lire dans le domaine qui le concerne. Il doit lire et savoir qu'est-ce que l'État lui demande comme formalité à accomplir. À ce moment-là, moi, pour créer une entreprise, c'est simple. Vous vous rapprochez d'un notaire, vous demandez, vous prenez connaissance de la charte d'investissement, vous demandez à un notaire que vous voulez créer telle entreprise dans tel domaine. Une fois que vous vous accordez avec votre notaire, l'entreprise est créée, le notaire se rapproche de la chambre de commerce et d'industrie pour que vous ayez votre registre de commerce. Ensuite, vous-même, vous allez vous présenter au niveau des impôts pour avoir ce qu'on appelle le NIF, le numéro d'identification fiscale. À ce moment-là, vous avez votre entreprise qui est opérationnelle et vous avez aussi l'obligation de vous rapprocher des CNRS qui est appelé l'Office de sécurité sociale. Donc, vous allez là-bas pour avoir également votre numéro d'immatriculation pour l'employeur et au niveau de la CPE qui s'occupe des emplois, vous devez vous rapprocher là-bas aussi pour avoir un numéro. Voilà, avec tous ces documents, vous avez une entreprise qui est déjà créée. Vous pouvez commencer à exercer vos activités librement, sans complications, sans d'autres formalités. Vous n'avez pas besoin de venir ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'Assemblée nationale.
Mais à propos de cette charte d'investissement, il y a une différence entre les étrangers et les nationaux qui veulent investir.
Comment on peut faire cette différence? Non, il y a l'OMC qui est là, l'Organisation mondiale de commerce. Nous sommes signataires, donc nous devons respecter la convention internationale. Non, on ne peut pas faire la distinction entre un investisseur étranger et un investisseur local. Je n'ai pas encore parcouru tous les documents, mais je mets des réserves pour savoir. Mais je pense que, vu le texte de l'OMC, ce n'est pas possible. Mais justement, ce n'est pas ce que je vous ai dit. C'est ce qui est écrit dans le texte fondamental de la République africaine appelé la Constitution. L'article 60 dit le gouvernement a l'obligation. C'est pas moi qui l'ai écrit. Le gouvernement a l'obligation de recueillir préalablement l'autorisation de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale est composée de 140 députés. Donc, normalement, selon l'interprétation de ce texte, le gouvernement doit demander l'avis de plénière. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit se réunir en plénière pour examiner ce que le gouvernement demande. Quelle entreprise et dans quel domaine, dans quelle zone? Parce que dans toutes les zones, il y a des députés. À ce moment-là, le député de la zone là où l'investisseur veut aller exploiter, il doit avoir toutes les informations. Et il va éclairer la plénière. À ce moment, la plénière peut prendre une décision. Oui, nous sommes d'accord. Non, nous ne voulons pas. Donc, c'est ça le problème. Alors, ça se posait un problème d'interprétation du texte ici. Premièrement, il savait que l'ancien président sortant de l'Assemblée nationale, Karim Mekassoa, a cru devoir saisir la Cour constitutionnelle pour demander la clarification sur l'article 60. Je ne suis pas ici pour critiquer la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle a rendu une décision pour dire qu'il s'agit du bureau de l'Assemblée nationale. Chose que j'ai mis de réserve parce que ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale qui constitue l'Assemblée nationale, mais c'est les 140 députés. Donc, vous me posez la question concernant Bozoum. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce que une fois qu'on est arrivé à Bozoum, nous nous sommes rendus compte que ce n'est plus une exploitation artisanale, comme on nous a fait comprendre. C'est une exploitation semi-industrielle. Parce qu'à Bozoum, les Chinois ont déployé des moyens lourds. J'ai vu des poquins, j'ai vu des engins lourds là-bas. J'ai vu des machines sophistiquées au niveau de Bozoum. Voilà, c'est comme ça que je peux vous répondre à votre question. Et cette affaire de Bozoum, tout le monde le sait qu'il y a eu des manquements à ce niveau aujourd'hui. C'est regrettable par rapport à la vie des peuples centrafricains, de nos compatriotes qui sont dans Wam-Wam-Pindé. Justement, c'est ce que je peux vous dire.
Quels sont les enjeux et les défis liés à l'investissement en République centrafricaine de nos jours, Augustin Agou?
Les défis ne manquent pas. Aujourd'hui, si vous écoutez les informations à la radio, vous êtes la presse, vous avez vu qu'on a fait le forum des investisseurs en République centrafricaine. Nous avons fait deux fois, sauf erreur de ma part. Mais ça a mené quoi? Où sont les résultats? Quelles sont les nouvelles entreprises qui ont été créées après ce forum que vous connaissez? Je ne pense pas, il n'y a rien. Deuxièmement, vous écoutez à chaque fois la radio que le président de la République a reçu des investisseurs, mais concrètement, on ne voit rien. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste centrafricain, les conditions. Je suis chef d'entreprise, je sais que ce n'est pas facile aujourd'hui d'investir en République centrafricaine. Les conditions ne sont pas réunies. Je vous donne à titre d'exemple. Vous avez les barrières illégales en République centrafricaine. Quand vous quittez avec votre marchandise depuis la frontière Beloko pour venir à Bangui, vous traversez combien de barrières? Ça, c'est des tracasseries et ça pose problème. Vous voyez, la durée de rotation de stock pose problème. On est obligé d'injecter beaucoup d'argent dans ces barrières illégales où on réclame aux chauffeurs. Et ça, qui paye? C'est le centrafricain lambda qui paye. Parce que ça rentre dans la détermination du coût de revient de la marchandise. Un commerçant, il achète sa marchandise à 10 000 francs, il arrive à Beloko. Si vous permettez, je vais vous citer par exemple les barrières. Quand vous traversez la barrière entre la République centrafricaine et le Cameroun à Garboulay, immédiatement à 50 mètres, vous allez voir deux petites cabanes. Du côté gauche comme du côté droit, il y a la gendarmerie et la police. Et vous faites 2 km, vous arrivez au commissariat de Beloko. Il y a la barrière. Et vous traversez le commissariat de Beloko, vous faites encore 2 km, vous arrivez après émigration et immigration. Je me pose la question, c'est dans Paille. Quel est le rôle d'un commissariat? Pourquoi ne peut-on pas contrôler les papiers des gens au niveau du commissariat sur place là-bas? Donc on a créé d'autres barrières encore pour racketter le peuple centrafricain, le commerçant. Et vous traversez cette barrière, vous arrivez à la douane de Beloko. Barrière ici. Quand vous finissez avec la douane de Beloko, vous arrivez à Baboua. Il y a la barrière à Baboua ici. Après Baboua, il y a Galo. Barrière, après entrée de Boire. Barrière, sortie de Boire. Barrière, entrée Baoro. Barrière, sortie de Baoro. Barrière, entrée Bossamtéré. Barrière, vous avez la douane à Bossamtéré. Sortie de Bossamtéré. Barrière, entrée Yaloké. Barrière, au milieu, entre Bossamtéré. Avant d'arriver à Yaloké, vous avez la barrière normalement de la douane qui est à Gaga ici. Et avant d'arriver à Yaloké, et à Yaloké, entrée, vous avez la barrière à entrée Bossambélé. Barrière, sortie Bossambélé. Barrière, vous êtes à quelques kilomètres après Bossambélé. Vous avez la barrière avant d'aller à Lambi et entrée Boali. Barrière, sortie Boali. Barrière, vous arrivez au PK10 avant d'arriver au PK26. Barrière ici, tout service confondu. Quand vous traversez, vous faites un kilomètre sur le pont. Barrière, on vous dira ici, c'est le brigade économique ici, c'est la sécurité présentielle qui sont ici. Vous traversez ici, avant d'arriver sans logement, vous avez les brigades motorisées ici. Barrière, et vous arrivez sans logement, vous allez trouver la police ici et c'est n'a pas. Vous êtes de la peste, mes chers frères. À quoi sert cette barrière qui est au PK12? Regardez vous-même, observez, voyez le nombre de populations qui habitent derrière le PK12, de PK12 ici jusqu'en allant sur le de Boali et sur le de Damara. À quoi cette barrière? Ça sert à quoi cette barrière de PK12? C'est pour acquitter les gens. Et donc, c'est cet argent-là, quand les commerçants donnent, ils sont obligés de répercuter sur le coût de revient de leurs marchandises et c'est le centrafricain lambda qui paye le prix fort. C'est pour ça que les produits de première nécessité, les prix sont exorbitants dans notre pays, la République centrafricaine. Voilà quelques exemples. Les conditions ne sont pas réunies. Ça décourage les investisseurs, mais c'est sympa.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Faisons maintenant un tour dans certaines circonscriptions électorales, Igor.
Tout à fait. Jean-Eudes, dans un premier temps, nous allons nous rendre d'abord à Gambo, dans le Mbomo. Le député Michel Kwingo Le député Michel Pingo veut rassurer l'opinion sur les derniers événements survenus à Pombolo.
Selon le lutte de la nation, il n'y a pas eu d'affrontement à Pombolo. Le décès d'un éleveur dans la localité fait suite à une fausse manipulation d'armes.
Il n'y a pas eu d'assassinat entre deux communautés à Pombolo. Il n'y a pas eu de heurts à Pombolo. Il n'y a pas eu d'affrontement à Pombolo. La réalité, c'est qu'un accident s'est produit entre deux peuls éleveurs. Il y en a un qui avait son arme et par mégarde a tiré sur son frère. Le frère est blessé et il a été amené au village, soigné. Mais malheureusement, il est décédé par la suite. Et avant de mourir, il a fait comprendre à tout le monde que c'est un accident qui est arrivé entre eux-mêmes. Ce n'est pas ce qu'on appelle là-bas les bandas ou bien les autodéfenses qui ont commis le forfait. Donc à la suite de cela, le sous-préfet de Gambo, informé de la situation, est descendu à Pombolo. Des enquêtes ont été menées et la vérité a jailli. Donc, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré à Pombolo, comme on le prétend. Il n'y a pas eu d'affrontement à Pombolo, comme on le dit. Voilà la vérité.
Mais après la crise, on sait bien que Pombolo a été théâtre des événements. Quelle est la situation des communautés de la population actuellement?
Je vous remercie pour cette question très importante. Vous vous souviendrez que en fin avril, début mai, jusqu'au milieu du mois de mai, j'ai effectué un déplacement dans ma circonscription. J'ai passé plus d'un mois et demi là-bas. Et je suis allé à Pombolo et j'ai fait une très grande réunion à Pombolo où toute la population était là. Et les deux communautés étaient réunies. L'impression que j'ai eue là-bas, c'est que les choses se passent comme si rien du tout ne s'était passé avant. Donc la paix est revenue, la cohésion est revenue, l'entente est revenue entre les deux communautés qui composent la sous-préfecture de Gambo, à savoir les chrétiens, comme on le dit généralement, parce que je n'aime pas prononcer le mot de chrétien, et les musulmans. Donc il n'y a plus rien du tout dans la sous-préfecture de Gambo, et particulièrement à Pombolo, les deux communautés vivent en symbiose. D'ailleurs, en pleine crise, une partie des bandas, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient restés à Pombolo sous la protection des peuls autochtones. Plus de 400 centrafricains chrétiens, comme on le dit, étaient restés à Pombolo sous la protection des peuls. Donc, après la signature des accords de Khartoum, tout est revenu à la normale. Et la ville est calme.
Jean-Eudes, revenons ici à Bangui, où le député de la première circonscription du 6e arrondissement de Nimodemadé a mis en place un projet pour la délivrance des actes de naissance aux enfants de sa zone de juridiction.
Ce projet Igor vise à permettre la reconnaissance et la scolarisation des enfants démunis dans la localité de Nimodemadé.
C'est un constat. Notre décision et notre projet vient d'un constat généralisé. Aujourd'hui, si vous prenez en termes de statistiques, ça ne concerne pas seulement les gens de ma localité, les enfants de ma localité, c'est d'une manière générale. Mais moi, j'ai voulu le faire pour les enfants et les personnes de ma circonscription parce que le constat est amer. Vous constaterez que dans un foyer, vous prenez un échantillon des enfants qui sont nés dans un foyer, presque la moitié des enfants ne disposent pas d'acte de naissance. Entre autres, vous constaterez également que dans ma zone, je suis le député de la 2e circonscription du 6e arrondissement. C'est cet arrondissement qui est voisin au 3e arrondissement. Avec les événements qui se sont produits où beaucoup de maisons ont été brûlées, beaucoup de maisons détruites, lorsque les gens fuient leur maison, quittent leur maison, ce n'est pas toujours qu'ils prennent avec eux leurs effets, les documents et autres. Donc ils quittent précipitamment la maison, abandonnant tout papier et effet. Très souvent, ces effets sont volés, pillés, brûlés, incendiés. Et donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans ma circonscription ne disposent pas d'acte de naissance. Donc, pour les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, qui sont nés depuis un certain temps, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, des fois même jusqu'à 15 ans, ne disposant pas d'acte de naissance, je trouve ça anormal. C'est même pour ça que j'ai pris sur moi de chercher à remédier à cela. Et nous disposons des unités et des cellules pour ce faire, qui prennent des renseignements fiables et je crois qu'on est suffisamment avancé. Le tout pour nous, c'est de faire en sorte qu'un enfant dispose d'un acte de naissance.
Les Centrafricains ont donné leur avis sur la convention de Bonn sur les espèces migratrices ratifiée par les élus de la nation.
Je crois que cette initiative est la bienvenue parce que le pays a besoin de nos différentes espèces sauvages, non seulement pour le développement du tourisme, mais également pour le développement du pays.
Moi, je suis vraiment pour cette loi. Mais vous savez, ce qui est le plus souvent bizarre chez nous ici, on vote les choses. Mais maintenant, la question qui reste à savoir, est-ce qu'on va vraiment appliquer ces lois-là ou bien cette loi?
Oui, c'est une bonne loi. Je pourrais le dire, c'est une bonne loi. Cela permettra à notre pays de protéger aussi nos espèces.
La crise militaro-politique qu'on a connue là, la RCA a perdu beaucoup d'espèces. Les autorités ne contrôlent pas encore ces espèces-là. Les groupes armés sont au contrôle de tout ça là. Donc maintenant, avec cette loi-là qui a été rectifiée l'autre fois par les députés, c'est un pas. Donc il faut que maintenant les autorités prennent leurs responsabilités maintenant pour protéger ces animaux qui sont comme un patrimoine pour la RCA.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekiluka.
Revenons maintenant vers le député Sonny Koulbayon, premier vice-président de la commission Affaires étrangères, pour des précisions sur cette convention.
Le projet de loi qu'on vient de ratifier aujourd'hui est un projet de loi qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis 2017. Par souci d'organisation au niveau du gouvernement, on n'a pas pu le ratifier à temps. Mais c'est un projet de loi qui est vraiment d'une importance capitale pour la République centrafricaine. Ce projet de loi concerne les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, communément appelée Convention de Bonn. Elle a pour but de nous permettre de jouir d'énormes avantages découlant de cette convention. Elle a été signée depuis en 2012 et nous ne l'avons pas ratifiée jusqu'à ce jour, ce qui ne nous permet pas de bénéficier de ces avantages.
Quels sont ces avantages et quelles sont ces espèces concernées?
Vous savez, aujourd'hui, les espèces migratrices en Centrafrique, on assiste au mouvement des gorilles qui sont devenues des espèces migratrices par rapport aux conditions de vie, le changement climatique, les phénomènes de braconnage. Nous avons les chauves-souris, nous avons les hirondelles, d'autres types d'espèces. Il y en a plusieurs, il y a toute une liste qui se met systématiquement à jour justement à travers cette convention. Il y a aussi une mise à jour des espèces qui se rajoutent par rapport à l'évolution de la société.
Radio Ndekeluka, l'oiseau de bon augure, vous nous écoutez toujours sur les 100.9 FM. Nous allons terminer cette émission avec la connaissance du Parlement communautaire. Des clarifications avec le député André Nalke Dorogo, membre de cette institution.
Le Parlement a deux attributions précises. Elle s'occupe du contrôle démocratique, c'est-à-dire elle contrôle les activités de la commission qui a son siège à Bangui. Elle contrôle également les activités du Conseil des ministres de la CEMAC à travers des amendements, des résolutions. Et si la question est cruciale, on peut aller jusqu'à la motion de censure pour démettre la commission. Donc tout ce qui relève de la politique communautaire est renvoyé au niveau du Parlement communautaire pour examen en vue du contrôle. Deuxièmement, le Parlement communautaire intervient aussi dans ce qu'on appelle le processus décisionnel, donc par le contrôle des actes, par le contrôle de la commission, par le contrôle du Conseil des ministres, par le contrôle des institutions et organes de la CEMAC.
Cette rubrique met un terme à ce magazine parlementaire de la semaine. Tous nos remerciements à ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de
Joët Bagali
et Igor Jeskin Senapaye à la partie technique. Cyrus Armand Zemangi Kété. Nous remercions aussi le staff de communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. A toutefois, vous pouvez retrouver ce magazine sur les www.radiondekeluka.org.